Bonjour Loïc, j'ai 20 ans et je suis en école d'ingénieur. Et voilà, je voulais juste faire un constat que dans une école d'ingénieur publique, et sûrement pas uniquement dans la mienne, il n'y a toujours pas le tri à la cantine scolaire. Donc tout va dans la même poubelle et je trouve que ça donne quand même pas un très bon exemple. Pareil au lycée, au collège, enfin, on entend parler de réclamations contre McDonald's, etc., qui sont des grandes multinationales. Mais il faudrait déjà que ce soit dans le collège, les lycées, les écoles, pour former les esprits, quoi. Sur ce point, on a quand même un retard par rapport aux autres pays frontaliers. Merci et continuez.
Bonjour, c'est Christine, pédiatre en Alsace. Aujourd'hui, je vous appelle de Glasgow, où je suis arrivée hier avec une trentaine de collègues anglais après un long périple à vélo. On est parti de Londres il y a 8 jours pour transmettre à la COP26 la lettre pour un climat sain. Notre message est clair. La crise climatique est une urgence sanitaire. Si personne n'est à l'abri des effets du climat, en France comme partout dans le monde, ce sont les populations les plus vulnérables et les enfants qui sont le plus touchés par cette crise. Celles qui contribuent le moins aux problèmes, qui sont le moins à même de s'en protéger et dont la santé est la plus impactée par la pollution de l'air, les vagues de chaleur, les événements climatiques extrêmes, etc. Les gouvernements doivent prendre des engagements forts afin de limiter la hausse des températures à 1,5. Ces derniers jours nous ont montré qu'on peut faire des choses incroyables en équipe. Je ne suis pas une grande sportive et j'aurais jamais atteint Glasgow à vélo toute seule. Les montées, c'était 6500 mètres d'altitude au total, les crevaisons, la météo, surtout dans le nord. C'était pas une promenade dans le parc. Alors, imaginez-vous que tous les travailleurs de la santé, les parents et les grands-parents, s'unissent pour protéger l'avenir des enfants. Je pense que cela donnerait un élan suffisant pour que nos dirigeants agissent enfin de manière significative sur l'urgence climatique. Allez, on y va tous. Merci, au revoir.
Bonjour, Hubert Chamonix. On entend beaucoup parler du réchauffement dû exclusivement aux actions de l'humain, mais est-ce qu'on s'est posé la question un jour de savoir si la Terre elle-même pouvait se réchauffer par un procédé qui nous échapperait? Voilà, merci de ce temps et bonne réflexion, bonne émission.
Bonjour la Terre au carré, c'est Samuel de Rouen. Lors de votre émission de jeudi dernier relative à la préparation de la COP26, votre intervenante a fait référence aux 100 milliards de dollars qui devaient être alloués à l'adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment pour les pays les plus démunis. Ils auraient dû être alloués en 2020, aujourd'hui on espère qu'ils seront versés en 2023, sans aucune certitude. Ce même jour était annoncé dans les médias qu'Elon Musk, actuel patron de Tesla, avait gagné la modique somme de 31 milliards de dollars en une seule journée, sa fortune atteignant environ 300 milliards de dollars. Par ailleurs, aujourd'hui, ils sont une dizaine de milliardaires à détenir une fortune largement supérieure à 100 milliards de dollars. La juxtaposition de ces deux informations n'est-elle pas choquante? PS, la réponse est dans la question. Merci et bonne journée. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
La fin du pétrole est-elle pour demain? En 2020, un rapport du Shift Project estimait que l'Europe allait connaître à partir de 2030 un déclin prononcé de ses importations de pétrole. Le temps de l'abondance pétrolière serait donc déjà derrière nous. En 2008, le pétrole conventionnel avait déjà franchi un pic de production, ce qui signifie que plus jamais, sauf découverte miraculeuse évidemment de gisements abondants de pétrole, le record de production de cette année 2008 ne pourra être battu. Ce déclin de la production de pétrole conventionnel est-il une bonne nouvelle pour décarboner la planète, éviter la catastrophe climatique qui se profile? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec vous, Mathieu Ozano. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio aujourd'hui. Vous êtes le directeur du Shift Project, donc ce groupe de réflexion sur la transition énergétique. Vous vous appelez aussi Oilman en tant que blogueur invité de la rédaction du Monde avec vos chroniques de début de la fin du pétrole. Et aujourd'hui, donc, sort cet ouvrage Pétrole, le déclin est proche, que vous publiez au Seuil en partenariat avec Reporter, avec Hortense Chauvin, une enquête date assez étonnante finalement lorsqu'on découvre que le compte à rebours a déjà commencé pour la ressource en pétrole et le tout dans une indifférence assez relative. On en parle dans un instant, les questions des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur la page de l'émission franceinter.fr et puis bien sûr tous les réseaux sociaux pour vos messages et également l'application France Inter où vous pouvez réagir en direct avec également vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et la parole aux chasseurs aujourd'hui qui veulent défendre les chasses traditionnelles et manifestent pour ça.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestara et préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati, avec la participation de Léonard Ocan pour les réseaux sociaux et Fabrice Desmaz et Sybille Clamins à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Reconnais que c'est merveilleux. Nous voilà tous de retour dans le pétrole.
Ta maman est une sacrée femme.
Alors tu n'es pas fâché ?
Regarde les choses en face. Ton oncle Bobby revient dans les affaires du pétrole. Ta mère va rester pour surveiller ses intérêts. Et toi, tu pourras vivre tranquillement ici, grandir et apprendre ton métier avec le meilleur pétrolier du Texas.
Attends un petit instant. Tu parles comme si tout s'était passé comme tu le voulais.
Tu vois, John Ross, tu apprends très vite.
Ah, ça fait plaisir à tout le monde.
Dallas.
Bah oui, ton univers impitoyable. Bah, c'était quand même la belle époque, hein, dans les années 80, Mathieu Ozano, où les familles républicaines du Texas pouvaient vraiment jouir de leurs ressources en pétrole sans trop se soucier. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même configuration, même dans un état comme ça.
Disons que le pétrole a eu un rôle essentiel dans l'essor de la puissance américaine. On parle d'énergie, entre énergie et puissance économique, il y a un lien très très intime. Hein. Si on n'a pas complètement dormi au lycée, on sait qu'un joule, c'est un watt, pardon, c'est un joule par seconde. Il y a ce lien. Plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez exercer de puissance, dont notamment la puissance économique. Les temps ont changé pour les États-Unis et pour le Texas.
Et la famille Ewing.
Et pour la famille Ewing. Il y a eu une suite qui a été tentée d'ailleurs, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais c'est très symptomatique cette époque-là parce que précisément c'est une époque où la production de pétrole aux États-Unis décline déjà, et en particulier au Texas. Ouais. Et en fait, depuis l'époque de JR, depuis l'époque de Dallas, on consomme le pétrole plus vite qu'on ne le découvre. Et ça, c'est un des symptômes centraux. Ouais. Pour se rendre compte qu'il y a effectivement une limite à cette ressource. Voilà plus d'une génération qu'on produit et on consomme de plus en plus de pétrole, mais que pendant ce temps-là, les pétroliers en trouvent de moins en moins.
Ouais. Sauf qu'il y a déjà un déni, au fond, hein, qui s'installe, et c'est toute l'idée aussi de ce livre, c'est-à-dire que ce déclin, il existe depuis, effectivement, au moins les années 70 aux États-Unis, sauf qu'on n'en parle pas, évidemment, et que même aujourd'hui, lorsqu'on nous en parle, finalement, on fait tout pour oublier la situation. Qu'est-ce que vous entendez, d'ailleurs, par déclin proche du pétrole ?
Ouais, alors... D'abord, un autre élément de diagnostic très important, vous l'avez cité, il faut y revenir. Le pic de production du pétrole conventionnel, donc le pétrole liquide classique, c'est les trois quarts de la production mondiale, c'est absolument considérable, est franchi. Pic de production, ça veut dire une chose toute simple. Dès que vous consommez une ressource finie, que ça soit un puits de pétrole, une mine de quoi que vous vouliez, ou votre tube de dentifrice, la production va partir de zéro. Elle va passer par un maximum. Elle pourra éventuellement s'y maintenir, mais elle déclinera jusqu'à revenir à zéro. Okay ? Mmh. Pour le pétrole conventionnel, donc la forme reine de pétrole, la Macédite en quelque sorte, l'Agence internationale de l'énergie qui est tout près de la maison de la radio, nous dit ce pic est franchi parce qu'on n'a pas de ressources intactes suffisantes pour maintenir la production. Voilà. Et après, il y a toutes les formes de pétrole non conventionnelles, les alternatives finalement à ce pétrole roi qui est le pétrole conventionnel. On n'a pas beaucoup parlé du pétrole de schiste aux États-Unis en particulier, et toute la question est de savoir combien de temps ces pétroles non conventionnels peuvent re-remplir la baignoire qui se vide de l'autre côté. Et pour répondre à votre question, la proximité de ce déclin, il dépend de la capacité à re-remplir la baignoire. Mais même en prenant les hypothèses aujourd'hui les plus optimistes, celles qui viennent de l'industrie, on évoque un pic de production physique qui n'a rien à voir avec les politiques de transition énergétique dans le courant de la décennie 2030.
Donc c'est demain, quoi. Voilà.
On peut dire c'est dans longtemps, mais à l'échelle des grands systèmes techniques, et en particulier des systèmes de transport, notamment, dont on dépend à 100%, pour lesquels on dépend à 100% du pétrole, faire bouger le paquebot en 15 ans et nous sevrer, commencer à sérieusement nous sevrer de cette ressource qui
et se préparer à la fin, oui, c'est ça.
Et qui permet de tout faire, et ben c'est très proche.
Juste
et...
petite précision, le pétrole non conventionnel dont vous parlez, il sert à quoi pour les gens qui...
Il sert exactement à la même chose que le pétrole.
Donc on le retrouve
finit, et donc il finit pour l'essentiel dans les stations-service, on s'en sert pour faire toutes sortes de produits plastiques,
nos masques chirurgicaux.
Des engrais, absolument. C'est simplement que sa différence est une différence géologique, en fait. Ou chimique. C'est-à-dire qu'on ne le trouve pas dans les mêmes formations géologiques que le pétrole conventionnel. Et ça a une grosse différence, si vous voulez, c'est que toutes les alternatives au pétrole conventionnel sont plus chères et plus compliquées.
Mais même les agrocarburants font partie de cette famille des...
Alors, les agrocarburants,
du pétrole non conventionnel,
on peut les ranger parmi
avec les sables bitumineux.
Les alternatives au pétrole. Ouais. Donc, il y a les sables bitumineux, effectivement. Les agrocarburants et, ouais. Et le pétrole de schiste qui sont les trois formes principales.
Vous citez évidemment vos sources sur ce déclin évidemment du pétrole, et ce qui est assez frappant au fond en découvrant cet ouvrage, c'est que les industries pétrolières elles-mêmes annoncent la fin du pétrole pour des dates aussi, des échéances assez proches de nous.
Oui, bien sûr, il y a une dissymétrie d'information parce que c'est de l'information qui est très technique et puis, c'est une information qui est largement couverte par le secret commercial, ouais. Voire par le secret d'État. En Russie ou en Arabie Saoudite, parler des réserves pétrolières, ça peut vous entraîner vers des conséquences très sérieuses. Très ouais. sérieuses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années maintenant, les pétroliers eux-mêmes crient au loup. Et ils ont envie que ça se sache. Typiquement, Hélène Christophersen, qui est la patronne de la stratégie chez Total, en février dernier, très publiquement, lors de la publication des comptes de Total, a dit ouais. « Nous, on regarde, il nous manque un dixième de la production de pétrole à l'horizon 2025, même en étant sur une hypothèse de reprise très douce de la demande au sorti de la crise du Covid. » Donc c'est vraiment une espèce de voiture balai. De seconde excellente raison de se préoccuper de la sortie du pétrole, alors, en plus du climat.
Alors l'OPEP, donc les puissances du pétrole et ses alliés, rouvrent les vannes du pétrole. Ça date d'hier, puisqu'il y avait une grande réunion avec la mise sur le marché de 400 000 barils de pétrole supplémentaires en octobre, a priori jusqu'en septembre 2022, avant de revenir à un niveau d'offre comparable à celui qui précédait la pandémie. Donc ça veut dire pour l'instant... tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ah, il faut dézoomer un peu. Il faut ouais. dézoomer. Cette histoire-là n'est pas une histoire conjoncturelle, c'est un phénomène structurel. Quand je vous dis que ça
à
fait
cause du COVID,
depuis l'époque de JR, oui, il y a la crise du Covid crée beaucoup de d'incertitudes. Mais quand je vous dis que depuis l'époque de JR, depuis l'époque de Dallas, ouais. on produit le pétrole plus vite qu'on ne le découvre. Ça veut dire ce que je veux dire par là, c'est que vous avez depuis les années 60 une tendance systématique au déclin des découvertes. Malgré les investissements, malgré les progrès en géophysique, les pétroliers trouvent de moins en moins de pétrole conventionnel depuis un demi-siècle. Donc c'est un phénomène qui est très ancien et par là, largement inexorable, puisque, n'est-ce pas, nous habitons une sphère et non pas
bien
la Terre au carré, elle est ronde
oui.
et elle n'est pas infinie.
Ça veut dire qu'a priori, on a fait le tour de la planète et qu'il serait très étonnant qu'on découvre des gisements ou des champs pétrolifères extrêmement importants aujourd'hui.
Si on prend l'exemple du pétrole conventionnel, donc le pétrole liquide classique, celui qui est le mieux connu, il y a des incertitudes sur les potentialités en particulier du pétrole de schiste. Mais pour le pétrole conventionnel, le pic de production dont je vous parlais en 2008, il a été prédit en 1998, par deux pétrogéologues de très haut niveau, Colin Campbell et Jean Laherrère, ouais. il est très rare, si vous voulez, en économie, qu'une prédiction se révèle aussi exacte. Mais parce que finalement, en fait, il ne s'agit pas d'économie, il s'agit de physique et de technique. Ouais. Et en fait, le calcul est assez simple. On a une connaissance, les pétroliers ont une connaissance précise de l'état des réserves, et le calcul mathématique qui permet de prédire la date du pic et le rythme du déclin, et il y a des incertitudes en chemin, mais le panorama, lui, je vous parle vraiment d'une évolution qui est, ouais. qui est inexorable.
Évidemment, quand on évoque ce sujet, on se dit c'est génial finalement pour toutes les préoccupations environnementales. Et malheureusement, on va voir dans un instant que ça n'est pas du tout le cas. On parle avec vous de la fin du pétrole, Mathieu Ozano, et vous répondez bien sûr aux messages et aux questions des auditeurs de la Terre au Carré.
This disco ball. us, the sun is us. Stars don't sleep, they shine from dawn to dawn. Night is deep, you flicker then you're gone. That thing in the sky is just a fireball. The sun is us, the sun is us.
General Electric avec Party Like a Human.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le monde tel que nous l'avons créé est le fruit de notre réflexion. On ne peut pas le changer si on ne change pas radicalement notre façon de penser. Alors demandons-nous, que se passera-t-il si nous décidons de ne plus faire appel aux combustibles fossiles ?
Voilà, c'était un Jesper Berg particulièrement enthousiaste qui s'adressait aux Nations Unies à l'automne dernier. Alors dites-nous comment il est parvenu à convaincre les Norvégiens de cesser toute production gazière et pétrolière.
En un mot, Maria. L'ouragan Maria a eu des effets catastrophiques sur la Norvège. Et je ne parle pas uniquement des 6 ou 700 morts qu'il a causés. Il y a eu également d'énormes dégâts matériels. Et dans cette situation traumatique, Jesper Berg a trouvé un public pour sa politique environnementale, politique qu'il promeut depuis un temps considérable. Et il s'est retrouvé propulsé aux affaires dans l'enthousiasme général.
Voilà la série Occupy d'une série norvégienne qui bâtit tout un scénario justement autour de la question justement des ressources, de la production pétrolière. Mathieu Ozano, évidemment la mer du Nord c'est aussi un hotspot pour les gisements pétroliers.
Oui, mais c'est aussi un cas d'école de déclin. La mer du Nord a été découverte et exploitée à partir des années 70, après les chocs pétroliers. Elle a franchi son pic en 2000. Et depuis, la production, à la fois en Norvège et en Grande-Bretagne, s'est effondrée, faute de réserves suffisantes.
Ouais, et on voit les bouleversements géopolitiques, finalement, que ça entraîne aussi, ce déclin des ressources. Parce que ça fait bouger tout le jeu du domino politique mondial.
Bien sûr. La Chine, qui est aujourd'hui le premier importateur mondial de pétrole, avec l'Union européenne, on le sait peu, est un producteur pétrolier important, mais sa production également décline de façon irrémédiable, probablement.
Ouais.
Et du coup, déploie une géostratégie du pétrole pour lui permettre de répondre à ses besoins. C'est pour ça qu'ils s'entendent très bien avec les Iraniens, avec les Irakiens, avec les Saoudiens, qui sont présents au Venezuela, au Soudan. Depuis tout leur essor économique, ils ont déployé cette stratégie. Mais si on regarde l'histoire des États-Unis, qui a été le premier producteur mondial de pétrole, on peut voir le surinvestissement militaire, et avec les conséquences qu'on connaît des États-Unis dans le Golfe Persique, s'intensifier considérablement à partir du moment où la production domestique américaine décline en 1970.
Ouais, le premier puits pétrole américain au 19e siècle, c'est en Pennsylvanie, hein,
Pennsylvanie,
ça.
Hein.
C'est là que ça commence, en fait, la ruée vers l'or noir.
Le premier boom pétrolier, ouais, c'est 1859 en Pennsylvanie.
C'est du
pétrole qui est épuisé depuis très très longtemps.
On a des messages d'auditeurs sur l'application France Inter. Isabelle qui nous écrit par exemple « Bientôt la fin du pétrole, point d'interrogation. J'ai vu hier soir un documentaire sur l'extraction faramineuse par les Russes en Arctique. » Un message de Jean-Michel aussi qui nous renvoie aux journaux ce matin sur France Inter, l'annonce de la découverte de nouveaux gisements au large de la Côte d'Ivoire, jusqu'à 2 milliards de barils de brut potentiels. Et puis on a aussi dans nos souvenirs, Mathieu Ozano par exemple, le PDG Total, Patrick Pouyanné, lors de l'Assemblée Générale au mois de mai, qui n'avait pas du tout l'air de dire qu'en gros on allait vers la fin du pétrole. Comment ça se fait qu'on ait tous, en tout cas le grand public, l'impression que ce déclin n'est pas du tout en marche? Alors que si, c'est quoi? C'est pour pas faire baliser les actionnaires, les bourses?
La première raison qui fait qu'on n'a pas ce sujet en tête, c'est qu'il est très peu documenté, pour la bonne et simple raison que les données techniques ne sont pas accessibles au public. Le Shift Project se les a procurés auprès d'une agence de référence d'intelligence économique, donc on a pu un peu regarder dans le réservoir. Ce que je décris là, c'est un secret de polichinelle pour les pétroliers. C'est un fait de la vie depuis très longtemps qu'ils trouvent de moins en moins de pétrole, d'une part, conventionnel, et d'autre part que ce pétrole, lorsqu'ils le découvrent, est dans des endroits de plus en plus inaccessibles. Vous avez cité deux exemples, au large de la Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée, et en Arctique, l'Afrique, dans son ensemble, donc ce sont des... En l'occurrence, 2 milliards, c'est potentiel.
De barils. Hein.
C'est 2 milliards de barils.
Mais c'est beaucoup ou pas alors?
Faut regarder parce qu'il y a toujours des différences. En fait, les pétroliers disent que on ne sait pas ce que contient un puits avant qu'on ait commencé à l'exploiter. Et bien souvent, il y a une surenchère dans les annonces et assez systématiquement, on a moins. Mais même 2 milliards de barils, par rapport à ce qu'on a pu découvrir au XXe siècle, c'est pas ce qu'on appelle un éléphant, c'est pas un champ géant. Mais par contre, ce qui est très symptomatique, dans les deux exemples que vous avez cités, c'est qu'effectivement, on est comme devant un arbre fruitier où on a cueilli les plus gros fruits à portée de main. Et en fait, le pétrole qu'on découvre aujourd'hui, il est plus rare et il est plus difficile d'accès.
Il est en Arctique, eau profonde, là, c'est sur
toujours,
la Côte d'Ivoire, c'est en eau
profonde. Tous les gisements sont en offshore. On a commencé à parler de pétrole offshore, puis de pétrole offshore profond. Aujourd'hui, on parle d'ultra profond ou en Arctique. Voilà. Et ça, c'est un phénomène... très caractéristique du fait qu'on trouve moins de pétrole et que ce pétrole est de plus en plus compliqué à aller chercher.
Pascal nous écrit, en écoutant votre intervenant, je comprends que le virage électrique pris par les constructeurs automobiles, en particulier les décideurs politiques pour l'horizon 2030, a certainement plus à voir avec le déclin de la ressource que les préoccupations environnementales. On fait des démarches climatiques parce qu'il n'y a plus de pétrole, en fait. C'est intéressant,
ouais,
tout
alors,
ça
là, on confine au complotisme. Je crois que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, pas pour les constructeurs automobiles. Ce qui les motive, les constructeurs automobiles, c'est que le Parlement européen
Total,
a dit.
Total, par exemple, alors.
Les pétroliers, c'est très différent.
Ouais.
Les pétroliers, en particulier, les vieilles compagnies, ce qu'on appelle les majors, les vieilles compagnies occidentales, sont confrontées depuis un quart de siècle à cette difficulté que je décrivais, à compenser le déclin de la mer du Nord. De nombreux pays producteurs africains, d'un certain nombre de l'Azerbaïdjan, de l'Indonésie. Il y a beaucoup de pays, en fait, qui ont déjà franchi leur pic et qui peuvent éventuellement gérer la descente, mais pour lesquels, quelque part, on sait que c'est franchi. Or, les pétroliers se sont préoccupés de ça depuis bien plus longtemps qu'ils ont commencé à se préoccuper du climat. Clairement. Et je pense que c'est quelque chose qui les met sous pression depuis plus longtemps. Vous voyez, la patronne de la... Donc, Pouyanné, lui, il faut pas trop qu'il fasse fuir le chaland. Mais sa patronne de la stratégie, que je citais tout à l'heure, elle est Christopherson, dit, nous, on voit qu'il manque un dixième de la production pour faire face à la demande à l'horizon 2025.
Mathieu Zanon, on va vous passer un petit extrait de Mad Max, ça va vous faire plaisir. 2015, Fury Road de George Miller.
Ah, vous me gâtez.
Faites des vrooms pour l'immortal, John! Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspillage de Pétroville et des munitions du moulin à balles. Je suis votre rédempteur. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde.
Voilà, c'est toujours la menace de la fin du pétrole hein, qui est centrale au fond avec le questionnement justement de l'après-pétrole. Hein. Et c'est Mad Max.
Ouais, moi je dirige un groupe de réflexion sur la transition énergétique on parle beaucoup de climat.
Ouais.
On sait que le climat est une raison suffisante de se préoccuper de la mise en œuvre de politiques concrètes, cohérentes de sortie du pétrole. En fait, ce que je raconte là, en tentant de documenter cette question qui est mal comprise, sauf des pétroliers, qui est celle des limites des réserves pétrolières, en fait, ce que vous avez là, c'est une seconde excellente raison de mettre en œuvre une sortie systématique du pétrole. Je prends l'image de la voiture balai. Je ne sais pas si tout le monde n'est pas forcément fan de courses cyclistes, mais dans le Tour de France, les gens qui abandonnent dans la course, ils sont ramassés par une voiture balai qui les ramène en camion. Voilà. Ben finalement, on est engagé dans une course aujourd'hui avec le climat, on le sait, pressante, dans laquelle on a pris un retard considérable, qui consiste à réussir à monter un col de haute montagne. Et ben, si on n'y arrive pas, on sera rattrapé par une voiture balai qui est conduite par Mad Max.
Ouais.
Et c'est ça le risque. Je dis pas que c'est exactement ça qui va se passer. Dans ce bouquin, je fais un travail d'analyse de risque. Je pense qu'on a en analyse de risque une excellente raison d'enfin sortir des palabres et se mettre à faire de la politique climatique, mais vraiment.
Ouais. Sauf que malheureusement, c'est pas ça qui va se passer.
Et hein. Si on le fait pas, voilà. Si on le fait pas, on risque d'être rattrapé par. Si on continue à être aussi vorace en pétrole, assez brève échéance, si on écoute par exemple Total aujourd'hui, on a un très fort risque. En particulier, et c'est toute l'ironie de l'histoire, nous autres Européens qui sommes les premiers, qui posons aux champions du climat, mais qui demeureront les premiers importateurs et importateurs, et donc importateurs tributaires de pays pétroliers qui soit sont en déclin comme l'Afrique dans son ensemble, soit qui sont au bord du déclin comme la Russie. La Russie, aujourd'hui, de l'aveu même du Kremlin, c'est un tiers du pétrole qu'on consomme en Europe, est au risque de voir cette production décliner au cours des années qui viennent.
Allez, vous restez avec nous, Mathieu Ozano. Ce livre sort aujourd'hui au Seuil avec nos confrères de reporters. Ça s'appelle « Pétrole, le déclin est proche ».
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert comme tous les jours. Camille Cronier.
Et coucou, les chasseurs sont de retour. Alors cette douce mélodie est tirée d'une petite vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux parce que ils sont colères, je vous préviens.
Ras-le-bol de la suppression de nos traditions.
Il y en a marre de toutes ces attaques. On ne se laissera plus faire.
Laissez-nous vivre, nous sommes des gens responsables.
Demain ce sera la palombophilée, la tonne et bientôt la bécasse. Cela devient insupportable.
Et il y a même les enfants.
La chasse à la matole, au filet comme la chasse à cour, font partie de notre histoire, de nos savoirs et de notre patrimoine cynégétique.
L'école, c'est bien, mais la chasse, c'est mieux.
Voilà, elles ont bien récité leur texte. Alors, pourquoi ce ras-le-bol ? Parce que le Conseil d'État, après avoir interdit la chasse à la glu en juin, a jugé illégal plusieurs autres méthodes de chasse d'oiseaux en août, celles utilisant des filets, vous l'entendez, ou des matoles, des cages pour les griffes, par exemple les vanneaux huppés ou les alouettes des champs. Et le gouvernement est venu en ajouter une couche samedi dernier, en interdisant jusqu'à l'été prochain au moins la chasse à la tourterelle des bois, des chasses dites traditionnelles que beaucoup veulent défendre au moment où la saison va reprendre. Donc, il y avait des manifestations samedi dernier, notamment à Toulon, dans le Var, dont Laurent Fondon est président de la fédération.
On veut perdre aucune chasse. Nous, on a un sport qui est un loisir. Hein. On essaye un petit peu de s'amuser et on ne peut plus rien faire. C'est comme si au football, on vous dit vous ne pouvez plus jouer, vous n'avez plus de ballon.
Je ne vais faire aucun commentaire, hein, sinon je vais encore me faire accuser d'être partial. D'ailleurs, je vous signale qu'on va entendre que des chasseurs dans cette chronique. Comme ça, ils ne nous diront plus qu'ils n'ont pas la parole. Adrien Dovetta, lui aussi, était à la manif samedi. Il a 24 ans et il gère l'association des jeunes chasseurs du Var. Je lui ai demandé si l'interdiction de quelques pratiques, si c'était en fait si grave que ça, parce qu'après tout, il y en a quand même plein d'autres qui sont autorisés, donc peut-être que c'est pas la mort, si.
C'est pas la mort pour vous parce que vous pratiquez pas peut-être, mais pour ceux qui pratiquent, c'est la mort, oui. Il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils pratiquent ça, 60 ans qu'ils pratiquent ça, et du jour au lendemain, on leur dit non, c'est fini, alors que l'impact, il est très 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 infime.
Oui, parce que les chasseurs contestent les chiffres officiels. Laurent Faudon.
Ça, c'est les chiffres des écolos. Nous, on vous donne les nôtres de chiffres, c'est autre chose. Et je peux vous dire que ben, les espèces se portent très bien, dont notamment les grives, tout ça et tout.
Alors, sauf que les grives, c'est pas forcément le bon exemple qu'il prend. Il aurait dû plutôt parler de la tourterelle des bois, dont la population a baissé de 80% en Europe en 15 ans, d'après non pas les écolos, mais les scientifiques. L'interdiction, justement, d'ailleurs, a été décidée hein, au nom de la protection de la tourterelle des bois. Pour les grives et la chasse à la glu, hein, c'est notamment pour des questions de bien-être animal.
C'est quoi le bien-être d'animal? Ça veut dire quoi, ça? Et ça, il faudra qu'il nous l'explique hein, aussi.
Alors, Adrien Dovetta, lui, est un petit peu plus nuancé.
À 24 ans, on peut comprendre qu'il y a des images qui choquent. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'images qui ne choquent pas. Sauf que ça fait partie des traditions. Et entre guillemets, il y a plein de choses qui se font dans les villes que nous, ruraux, ça nous choque. Et c'est nous, entre guillemets, on ne va pas dicter la vie aux urbains. Et là, aujourd'hui, actuellement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des décisions politiques sont prises au niveau national par des gens de la ville, finalement, hein, et dictent ce que nous devons faire, nous, ruraux. Vous comprenez ?
Alors, ce que je comprends, c'est l'opposition hein, qu'ils font, ces chasseurs-là, entre citadins et ruraux. Opposition un petit peu facile.
Il n'y a pas que la chasse qui est attaquée à travers ça. C'est tout le monde rural qui est attaqué. C'est tout le monde rural qui est en danger. Donc, en danger, complètement, on le dit. Et on n'a pas peur de le dire. Donc maintenant, il faut réagir.
Alors, de nouvelles manifestations sont prévues un petit peu partout en France pour, à travers les chasses traditionnelles, défendre la chasse tout court. Et donc, bah, le foot aussi, si j'ai bien tout compris.
Voilà, Camille Passauvert est chasseur, ou non chasseur d'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos messages et vos humeurs au 01 56 40 45 45. C'est le répondeur, bien sûr, de la Terre au Carré.
Mathieu Ozano, alors je ne sais pas quel parallèle je peux faire avec le pétrole, mais une France sans chasse, qu'est-ce que vous en penseriez, vous, par exemple? Exemple, sans chasse tout court.
Je sais pas. Je viens d'une région de chasseurs. J'ai grandi pas très loin du Médoc. Je pense que tout le monde doit évoluer aujourd'hui.
Vous réagissez en tout cas à la petite fille qu'on entendait qui disait c'est mieux la chasse que l'école.
Ah ben vous déchargez de la charge sur moi. Non, oui, non, c'est des choses étonnantes à entendre.
Oui. Vous avez pas trop envie d'en parler, visiblement, en tout cas.
Vous êtes chasseur?
Non, pas du tout. Je me suis même tiré dessus par des chasseurs quand j'étais petit parce que je circulais en vélo pas très loin d'un endroit où ils chassaient. Donc je les connais bien, donc je vais pas faire de commentaires.
Bon, on va parler pétrole avec vous dans un instant. C'est plus votre sujet que la chasse, avec les messages vocaux des auditeurs de La Terre au Carré.
Sur France Inter, une rediffusion de La Terre au Carré.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène. La scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi.
Vanessa Paradis et M avec la Seine sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Mathieu Ozanou avec cet ouvrage qui paraît aujourd'hui, Pétrole, le déclin est proche, les messages et notes vocales des auditeurs. Et on va écouter la voix de Ronan de Saint-Brieuc qui vient de nous envoyer son message sur l'application France Inter.
Je suis étonné qu'on n'anticipe pas en fait cette pénurie, parce que même pour la transition écologique, on a besoin de résine époxy pour fabriquer les pales d'éoliennes, par exemple. J'aimerais savoir, avoir une idée, en tout cas, sur le moment où on va enfin prendre en compte le coût réel des carburants, qui sont pour l'instant, à mon avis, largement sous-estimés.
Voilà, très bonne question de Ronan, Mathieu Ozanou, parce que d'abord, vous le rappelez dans votre livre, le pétrole est absolument partout, et même, oui, bah, par exemple, dans les éoliennes, hein, effectivement.
Ah ouais, bah, il faut une thérapie. On a un diagnostic qui est aujourd'hui complet. On sait qu'on a le problème climatique. J'espère qu'on va comprendre qu'on a aussi cette limite des ressources pétrolières qui nous pend au nez. Maintenant, il faut discuter de thérapie. Il faut discuter de comment est-ce qu'on organise concrètement pour pouvoir arriver à se passer de ce pétrole qui est omniprésent. C'est ce qu'on cherche à faire au Shift Project, par exemple. On s'apprête à publier un plan de transformation de l'économie française où on regarde activité par activité comment est-ce qu'effectivement, pour l'énergie, pour l'industrie, mais aussi pour la santé, même pour la culture, ce pétrole qui est omniprésent, comment on fait ? On a une génération pour nous en passer, que ça soit à cause du climat ou pour se prémunir de Mad Max, ou les deux, puisqu'en fait, c'est Caribe des Silla, l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Il faut regarder concrètement, et c'est absolument urgent, et il faut un plan qui soit pas d'abord un plan économique, qui soit un plan social, politique et technique, parce que le problème est fondamentalement technique. Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour s'en passer, et on a très peu de temps pour ça, et c'est ce qu'on essaie de documenter au Shift Project, et j'espère que ça aura un rôle pour éclairer un peu le débat sur la dans un pays ou dans un continent, l'Union européenne, qui se paye de mots pour l'instant, mais qui ne sort pas du tout du pétrole et qui est cerné par des pays pétroliers qui sont soit en déclin, soit, comme je le disais dans le cas de la Russie, qui vont bientôt décliner.
On a justement un message de Maud sur l'application France Inter qui nous demande quelle alternative pourra substituer tous les produits dérivés du pétrole et notamment tous les plastiques qui sont dans tous nos objets de tous les jours. Et Gilles, lui, nous parle justement d'une société autrichienne qui aurait mis au point, nous dit-il, un processus permettant de transformer les déchets plastiques en pétrole brut synthétique avec lequel on pourrait refaire du plastique, des carburants tels que l'essence et le diesel et produire du gaz. Qu'en pensez-vous, nous demande Gilles ?
Il y a un truc qui est très simple. Quand on essaie de bâtir une thérapie sur la transition énergétique, ce qu'on essaie de faire au Shift Project, c'est qu'en fait, il y a une donnée fondamentale du problème. Pourquoi est-ce que le pétrole est la première source d'énergie mondiale ? Parce que c'est la plus commode.
Oui, bien
sûr.
C'est
la plus commode.
Ouais.
Donc, ça veut dire, ce que je viens de dire, veut dire que toute alternative au pétrole, qu'on soit pour le nucléaire, qu'on soit pour les éoliennes, qu'on soit pour autre chose, est plus chère et plus compliquée. Plus chère et plus compliquée, et ça a une seconde conséquence, c'est que vous ne pouvez pas imaginer continuer à faire perdurer nos sociétés techniques avec tout le confort qu'elles nous offrent.
Oui, mais du coup, pardon, transformer ce que nous disait Gilles, transformer le pétrole, enfin le remplacer par exemple par des déchets plastiques recyclés, retransformés.
Justement, j'allais y venir, sans envisager... En fait, vous avez toute une batterie de solutions techniques, mais qui sont toujours limitées dans ce qu'elles proposent. Typiquement, ce genre de solution de transformer et retransformer des déchets en pétrole, en fait, on perd énormément d'énergie dans le processus. Les rendements sont extrêmement mauvais sur ce genre de processus. Donc ça veut dire que dès que vous imaginez des solutions sociétales pour se passer de pétrole pour nos grands systèmes techniques d'alimentation, de production, de transport, il faut que vous intégriez les limites des solutions techniques et explorer les solutions qui reviennent à faire une sobriété systémique. La sobriété, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont rien doivent se serrer la ceinture. Ça veut dire que nos systèmes d'organisation, de transport, de santé, d'industrie, doivent être bigornés, doivent être refaits, refondus, déformés, de façon à ce qu'ils soient, pas un peu, mais beaucoup plus sobres. Et à ce moment-là, vous pouvez imaginer répondre aux besoins avec des sources d'électricité décarbonées, avec des sources d'énergie décarbonées.
Mathieu Ozanou,
vous n'avez aucune chance de boucler cette équation si vous ne faites pas ça et si vous n'intégrez pas la sobriété au cœur du raisonnement.
Vous rappelez, puisque vous parlez de sobriété, qu'à chaque fois qu'on va à la pompe se servir, ben finalement, on participe aussi au déclin du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour les années, décennies à venir, justement ? C'est que le pétrole, dû à sa raréfaction, va devenir de plus en plus cher et vraiment de plus en plus cher.
Si on commence pas le sevrage, On est complètement accro au pétrole. Il suffit de regarder dans la rue, par la fenêtre, même avec l'essor balbutiant de la mobilité électrique, on est loin de commencer à sortir réellement du pétrole. Il n'y a aucune chance de le faire avec les outils qu'on met en place. Il faut être beaucoup plus audacieux. Il faut un plan, je le redis. Si on n'a pas ce plan, et si on n'a pas un consensus national, ou j'espère européen, pour nous organiser concrètement pour nous passer de pétrole, ça ne va pas bien se passer.
Il y aura des flambées de prix. Ça mobilise l'Europe aujourd'hui ou pas?
Non, on se paye de mots. Alors, il y a des choses qui sont... La mobilité électrique, c'est intéressant. C'est une émergence qui est intéressante. Mais elle peut, d'abord, elle peut échouer. Elle peut créer d'autres problèmes sur d'autres ressources. C'est pour ça qu'il faut parler de sobriété, en particulier dans la mobilité quotidienne.
Ouais.
Et c'est possible. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il y a des réponses qui sont des compositions de réponses techniques et sociétales, mais qui sont accessibles et qui ne sont pas forcément très chères.
Et donc le prix va exploser, pardon.
Du pétrole.
Je vous ai coupé...
Si on ne sort pas du pétrole, non seulement on aura des flambées de prix qui ont des conséquences qu'on a connues dans les années 70 ou en 2008, mais on aura des pénuries pures et simples de pétrole.
On a beaucoup de messages pour contester, enfin pas contester, mais en tout cas vous charriez un petit peu ce que vous dites, Mathieu Ozano, sur Facebook. Marcel qui nous dit, ça fait 50 ans précisément le rapport Mido de 72 avec des prévisions d'évolution problématique avant la fin du 21e siècle. Thierry qui nous écrit un peu la même chose aussi, et Christian qui vous dit, vous êtes complètement à côté de la plaque, depuis les années 70 on nous promet la chute du pétrole, pour maintenir les prix, il faut diffuser largement qu'il n'y a plus de matières premières, rappelez-vous le sucre, il y a sur Terre d'énormes réserves et les fonds marins n'ont pas encore été exploités. Bref, ce n'est pas fini, mais il faut maintenir les prix. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous?
C'est un peu n'importe quoi ce qu'il en est dit. Le rapport Meadows, pour le rapport sur les limites de la croissance, il ne parle pas de conséquences avant la fin du XXe siècle. Il parle de conséquences dans les années et les décennies qui viennent, première chose. Ensuite, on cherche, ça fait déjà maintenant un demi-siècle, en fait depuis les années 70 qui ont été évoquées, qu'on cherche du pétrole offshore. On cherche du pétrole en mer et qu'on en trouve de moins en moins. L'Afrique, je ne parle pas de choses qui se passent dans l'avenir. L'Afrique, qui compte de nombreux pays producteurs très importants, a franchi son pic en 2008. Sa production a décliné de 15% depuis 2008. Et si vous avez des amis algériens, demandez-leur. Ils vous diront qu'ils connaissent très très bien l'évolution de la production de la Sonatrach, de la compagnie nationale algérienne qui décline. Et non seulement ils connaissent ce fait-là, mais ils voient très très bien les conséquences politiques que ça veut dire. Que ça implique.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que le régime des militaires n'a plus les moyens de s'acheter la paix sociale. Et ça, c'est une conséquence. Vous voyez, quand on se projette sur un déclin qui est anticipé par le Kremlin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Kremlin, c'est le ministre de l'énergie russe qui dit notre production va décliner. Il faut pas être très pessimiste pour imaginer des conséquences délétères si nous, premiers importateurs, premiers clients de ces pays-là, on se prémunit pas et on n'anticipe pas de ça. Et voire, on les aide pas à sortir eux-mêmes du pétrole.
On va écouter la note vocale d'Éric de Bordeaux sur l'appli France Inter.
Est-ce que l'électricité et l'hydrogène sont des alternatives intéressantes en termes d'émissions à gaz à effet de serre et protection de l'environnement, car on voit bien que les énergéticiens vont à marche forcée dans cette direction avec l'accompagnement des gouvernements. Merci.
Alors, électricité, hydrogène, électricité, tout dépend également de la source.
Oui, pour faire. Alors, je rappelle que l'hydrogène, ni l'électricité ne sont des sources d'énergie. Il faut les produire dans les deux cas. Le moyen le plus courant de produire de l'hydrogène aujourd'hui et le moins cher, c'est d'utiliser du naphta, d'utiliser des hydrocarbures.
Ouais.
Donc, il y a un processus qui est. Bon, c'est pas du tout une solution, du coup, puisqu'on va chercher, on utilise du pétrole ou du gaz pour faire l'hydrogène. Donc, il faut arriver à produire beaucoup d'électricité avec autre chose que, non seulement du pétrole, on en fait plus beaucoup de l'énergie, de l'électricité avec du pétrole, sans gaz naturel, qui est le petit frère du pétrole, et sans charbon. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tous les moyens qui permettent de faire ça, que ce soit du nucléaire ou des ENR, sont compliqués et demandent des investissements considérables de la société. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'imaginer que du côté des consommateurs, on en consomme moins. La meilleure façon de ne pas émettre de gaz à effet de serre, c'est d'organiser le système de façon à ce qu'il soit plus économe.
Mathieu Ozano, on entend beaucoup les majors dont vous parliez tout à l'heure se reporter presque un petit peu, en tout cas parler de plus en plus du gaz et du gaz naturel. Il y a toujours ce terme qui est associé en faisant presque oublier que le gaz est encore une énergie fossile. Est-ce que le déclin pétrolier pourrait entraîner une répercussion avec des nouveaux gisements, des nouveaux forages sur le gaz?
Alors le gaz est le petit frère du pétrole, c'est la même chose mais plus léger. Voilà, on va dire comme ça, de manière lapidaire.
Est-ce que le gaz est en déclin ou il y a encore énormément de ressources potentielles ?
Il y a des... Alors, c'est une question qui est encore moins bien documentée que celle du pétrole, malheureusement. On va d'ailleurs au Shift Project s'y intéresser cette année. Il se trouve que bien souvent, on va chercher le gaz dans les mêmes formations géologiques que le pétrole. Simplement, on les exploite depuis moins longtemps. Mais la problématique du pic pétrole existe également pour le gaz, et pas forcément avec un décalage dans le temps très important. Aujourd'hui, la Russie, pour reprendre cet exemple-là, en Sibérie occidentale, là où il y a le gros de l'industrie pétrolière, il y a un problème de maintien de la production également gazière. Et c'est bien pour ça qu'ils vont aller chercher du gaz en Arctique, plus au nord, pour compenser le déclin. Donc finalement, vous décalez peut-être le problème d'une dizaine d'années, encore que c'est même pas sûr, mais il y a cette problématique qui existe également.
Au sujet de la Russie, justement, une note vocale de Kems qui nous écoute et qui a fait appel à l'application France Inter.
Bonjour, super intéressant comme d'habitude vos émissions. Donc moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que s'il reste peu de pétrole à la Russie, aux pays aux alentours, ben ceux-là, ils garderont bientôt le pétrole pour eux. Donc l'Europe n'en aura plus. Et je pense que ça risque de créer encore une autre guerre. Voilà. Merci.
Mathieu Ozano, répondre à Kems.
Je suis plus à l'aise avec des exemples historiques plutôt que imaginer le futur. Je suis d'accord avec monsieur, il y a un risque. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis qu'il faut documenter un risque. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Russie est le premier opérateur étranger du pétrole en Irak? Ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste pour le prestige de l'Empire russe que Poutine a pris le risque de s'avancer dans le vide laissé derrière eux par les Américains au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak? Ils sont aujourd'hui les mercenaires de Poutine, contrôlent une bonne partie de la ressource pétrolière libyenne. Bon, si eux-mêmes, leur production décline, est-ce que les brillants et redoutables stratèges du Kremlin n'ont pas, depuis longtemps, anticipé quelles pouvaient être les conséquences pour leur régime du déclin de ce qui permet de financer le dit régime?
Ouais.
Voilà. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Je dois dire que l'étude que vous avez citée, que le Shift a publiée, on l'a faite en partenariat avec, elle a été commanditée par le ministère de la Défense, par le ministère des Armées. Il y a une réflexion qui est tardive, mais qui commence là-dessus. Mais, je veux dire, il faut regarder l'histoire.
Ouais, ouais.
Quel est le mobile de l'invasion de l'Irak en 2003?
En tout cas, on le disait, il y a de vrais enjeux géopolitiques très sérieux, justement, avec
le
déclin de ce pétrole et des enjeux aussi autour du gaz pour la Russie en ce moment, et l'Europe le sait bien. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions de la part des auditeurs sur franceinter.fr, les réseaux sociaux, l'application France Inter et Youssoufa avec Astronaute. C'est tout de suite.
Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Alléluia, pas d'auréole mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que je me débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruche. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je conne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai grisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace, mets la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus, je confonds la NASA, la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis, ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Ne parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre, l'amour, les océans de larmes. J'suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Prims. Soleil.
du soleil, loin du soleil. Je rêve d'être astronaute, loin du soleil, loin du soleil. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Terre. La Terre au carré.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore et toujours le pétrole en tête des nouvelles de ce lundi 12. Le pétrole parce qu'il semble que le plus gros producteur, le plus gros exportateur, en tout cas l'Arabie Saoudite, puisse en augmenter le prix sans même attendre la prochaine conférence de l'OPEP le mois prochain à Caracas. Les Saoudiens sont, je vous le rappelle, les principaux fournisseurs de la France et c'est peut-être ce qui a conduit le Premier ministre à faire ce matin un appel à la responsabilité des producteurs et des consommateurs. Sinon, dit-il, nous allons au désastre.
Si tous les pays, pays producteurs et pays consommateurs, ne manifestent pas, dans les circonstances actuelles, un exceptionnel esprit de responsabilité, le monde, et je pèse mes mots, le monde peut s'acheminer vers un désastre.
Voilà, le désastre annoncé par Raymond Barre, parce que c'était le second choc pétrolier en 79, extrait du journal d'Antenne 2 à l'époque, avec une hausse très importante, parce qu'à l'époque, en 79, c'était 15% de plus pour le pétrole à la pompe. Et c'est ce qui pourrait nous arriver encore aujourd'hui, c'est ce que vous disiez à Mathieu Ozano.
Oui, oui, et puis en deçà de ces deux chocs pétroliers, il y avait déjà une évolution géologique. Le déclin de la production américaine a fait que ce sont les l'OPEP est devenu le maître du jeu. Mais c'est la conséquence du déclin de ce qui a été pendant l'essentiel du XXe siècle le premier producteur mondial, c'est-à-dire les États-Unis.
Donc si on vous écoute bien, Mathieu Ozano, depuis tout à l'heure, ce que prônent Greta Thunberg et beaucoup d'autres défenseurs du climat, de stopper immédiatement les énergies fossiles, en fait, c'est une fausse bonne idée?
Non, c'est pas une fausse bonne idée. Avant de débrancher, le pétrole, c'est comme le système sanguin de la société. On comprend qu'il faut changer le système sanguin. Ok. Vous n'allez pas débrancher un système avant d'en avoir branché un autre. C'est très bien d'appeler à la fin du pétrole, mais ce qui est fondamental, c'est la méthode qui va nous permettre d'y arriver. C'est-à-dire quelle thérapie vous faites pour vous passer de pétrole et faire qu'on continue à faire société et qu'on puisse jouir du progrès en quelque sorte. Sans autre entrave que, sans autre limite que précisément les limites de la planète.
Justement, Thibault nous demande les solutions prioritaires selon vous, la priorité dans cette nouvelle thérapie dont vous parlez.
Et vous dites qu'il faut décarboner quand même de toute urgence, hein, c'est ce que vous écrivez, hein, et de manière radicale.
Ouais. Bah, il faut une conversation nationale adulte et cohérente et patiente. On a eu une ébauche de ça avec la Convention citoyenne pour le climat qui parlait du climat, mais ce que je dis là n'est pas du tout, ça vient renforcer en fait cette nécessité historique pour éviter une tragédie. Mais ça veut dire que chacun doit faire sa part, la technique peut faire sa part mais elle ne peut pas faire de miracle et qu'il y a des évolutions assez profondes et bien souvent heureuses, je pense, dans la manière dont on s'organise collectivement.
Bonjour, c'est Hugues de Savoie. Je vous appelle pour vous demander si par hasard le grand continent de plastique ne deviendrait pas notre futur champ de pétrole. C'est pas une bonne nouvelle pour les gaz à effet de serre, mais bon, c'est une question comme ça.
Ah oui, avec une grande épuisette, on pourrait aller chercher tous les plastiques, les microparticules qui traînent dans les océans. Alors, Mathieu Zano, on a 30 secondes.
Dans l'absolu, oui, mais alors là, on est sur une source d'énergie qui est extrêmement diffuse, qui demande beaucoup de transformation. La force du pétrole, et c'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce qu'on est aussi accro au pétrole, c'est que c'est un stock d'énergie dense et simple à exploiter. Et encore
vous
une
en
fois,
il faut bien la promo. Hein.
Non, et il faut bien comprendre que toutes les alternatives sont plus compliquées, donc c'est un problème qui est politique. Technopolitique, si vous voulez, fondamentale et urgente.
Merci beaucoup, en tout cas c'est très intéressant, votre livre est hyper accessible, il fait 130 pages et ça permet de faire le tour de la question, ça sort aujourd'hui, Pétrole, le déclin est proche, c'est au seuil avec Reporter. Merci Mathieu Ozano.
Merci.